11h midi. Studio B. Studio B.
Et qui, toi, frère?
Bah, c'est moi, ça.
Ah, vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous, là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
Ouais, vous cherchez les sparring?
Plus du chômage, et plus que du RSA.
Bon, fou, j'en tomberai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux, là, devant maman?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi, t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On est pas d'accord, on est pas d'accord.
Il est temps de prendre ton envol.
Venez, suivez-moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un B comme barque de nuit, salut à tous, moi c'est Christophe. Et avec Camille, jusqu'à midi, on va vous parler de cinéma. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On vous retrouvera cette année encore tous les dimanches entre 11h et midi. Je dis on parce que Studio B, c'est avant tout une équipe. Je vous annonce le retour de notre spécialiste ciné, toujours prête à discuter de l'intérêt des cinéastes de la nouvelle vague ou à défendre des films indéfendables. Comme The Tree of Life, et puis aussi les films de femmes, car c'est l'incarnation du féminisme. Oui, même les femmes peuvent se rhabiller. C'est une pure bretonne de Mantes-la-Jolie, exilée puis libérée de Rennes et de retour parmi nous. Bienvenue Camille.
Merci beaucoup Christophe, j'aime beaucoup ce portrait de moi-même.
Oui, voilà, je trouve que c'était un bon résumé. De...
Oui, c'est vrai, c'est tout moi.
Pour voilà, les gens qui t'avaient oublié.
Oui, écoute,
personne t'a oublié.
Tu as tapé voilà. Juste. Oui, personne ne m'a oublié, j'espère quand même.
Exactement. Alors, comme la saison précédente, on te retrouvera pour le JV, j'y vais pas.
Tout à fait.
Quel film t'as choisi?
Alors, cette semaine, j'ai choisi La Nonne. Un film d'horreur. Voilà, je commence directement dans le film d'horreur.
On commence par un film d'horreur. Bravo, moi je vais avoir peur. Bravo, c'est malin. Et puis les news aussi, ça sera à 11h30.
Oui, les news. Je vais vous dire comment rencontrer Al Pacino en chair et en os. Attention, scoop. Et puis je vais vous parler du nouveau Superman et de Robert Pattinson aussi.
Bon, très bien. Si tout se passe bien, et elle doit être en train de encore de négocier son contrat, je pense, dès la semaine prochaine. On retrouvera Linda. Elle était là la saison dernière, elle aussi. On devrait la retrouver toute cette saison. On va faire aussi un gros coucou à Nassima, qui nous accompagnait la saison dernière et qui a décidé de ne pas remplir cette année. Je dois être trop insupportable, ça doit être
oui.
Ça. Je suis sûr qu'elle nous écoute, on l'embrasse elle aussi. Allez, avant de commencer avec ma sélection de sorties ciné de mercredi prochain, parlons de notre film de la semaine. Un beau film sur un père un peu déboussolé par le monde d'aujourd'hui. Il a laissé sa fille monter à Paris faire ses études, mais il a un peu dévié de son chemin, il l'a presque perdu et il va devoir partir la retrouver dans ce Paris qui a bien changé depuis 20 ans qu'il en est parti. Nos deux invités de la semaine, Camille
Roche Dizem et Nedra Ayadi.
Ils viennent nous parler du film Ma fille. Ils ne pouvaient pas être avec nous ce matin, on est donc allé les voir il y a 10 jours dans un hôtel du 3e arrondissement de Paris. C'était une matinée de semaine de rentrée à l'hôtel des Arts et Métiers et on a commencé par le commencement, c'est-à-dire leur proposer de choisir des questions. Et nous voici un mercredi matin dans l'hôtel des Arts et Métiers dans le 3e arrondissement de Paris avec nous Roche Dizem et Nedra Ayadi, bienvenue, bonjour.
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 Soyez bienvenue sur Beurre FM. On a l'habitude de proposer à nos invités de choisir deux questions dans l'émission. Une question que vous avez envie qu'on vous pose et on vous la posera parce qu'on est sympa. Et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose et celle-là, on ne vous la posera pas parce qu'on est sympa quand même aussi. Moi je dis, allez.
La question que j'aimerais qu'on pose, il n'y en a pas parce que j'aime pas qu'on pose les questions.
Ça va être compliqué alors.
Donc, mais je vais faire le travail, comme on dit, je vais faire le job. Et celle que j'aime pas qu'on me pose, bon, après c'est tout ce qui est de l'ordre de privé, intime, voilà, tout ce qui est extérieur au travail. Voilà.
Donc, ok, on prend note. Et celle-là on ne les posera pas. C'est noté.
C'est noté.
Promis.
On peut continuer. En fait, quand je dis j'aime pas qu'on me pose des questions, juste pour être clair avec vous, évidemment, on fait le job comme je disais, mais c'est parce que j'ai toujours eu le sentiment que tout ce qu'on avait à dire était à l'écran. Enfin, l'essentiel en tout cas. Et c'est toujours très difficile quand on vous dit alors parlez-moi du film, parlez-moi du personnage. En fait, il n'y a pas de mots à mettre dessus. Tout ce qu'on avait à dire et à faire, c'est l'interprétation qui reflète toute cette réflexion qu'on a pu avoir autour de notre travail, même de notre parcours.
Après,
c'était important de préciser.
Oui.
J'ai jeté un froid, donc je me suis dit je vais rattraper un petit peu quand même.
Et du coup, on va essayer de faire en sorte que de donner envie aux gens d'aller voir le film. C'est aussi le but de l'interview.
Par exemple, une question des journalistes que je trouve très feignant. Pas les journalistes, hein, je parle de la question, hein, pardon. C'est parlez-moi du film. C'est la pire des questions que vous pouvez poser.
Celle-là, hein, on l'a pas.
Vous l'avez pas noté, celle-là.
Non. Hein,
moi. Racontez-moi le film. Parlez-moi du film. La réponse est niette. Je raconte pas. Je parle pas du film. On peut parler de pas mal de choses, mais il faut laisser quand même un peu du mystère, en tout cas de à travers la. Le fait de découvrir un film. Nedra, à toi.
Est-ce qu'elle a trouvé ces deux questions en attendant
Alors, non, je sais pas. Là, peut-être.
La question peut-être c'est parce qu'en fait ça rejoint un peu ce que Roche dit, est-ce que vous aviez envie de passer à la réalisation, un truc qu'est-ce que c'est de en tant que comédienne, voilà, bon, évidemment
on la posera pas
puisque l'acte est là, ce que j'aimerais qu'on pose, alors ça va être contradictoire peut-être, le pourquoi
vous l'avez fait. Ok, ben c'est là par contre, on la posera. Allez, bienvenue à vous deux, nous sommes sur Beurre FM, nous sommes le dimanche 16 septembre, bienvenue dans le 62e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et les films à l'affiche la semaine prochaine, mercredi prochain, on commence avec Vaurien.
Oui, c'est mon coup de cœur de la semaine, un demandeur d'emploi qui vient de se faire radier, décide de braquer son agence Pôle emploi. Bonne annonce.
Monsieur, bonjour. Monsieur ?
J'ai dit tout le monde à terre !
C'est de votre faute. C'est de votre faute si on en est là, monsieur le directeur. 5 ans d'études supérieures, vous pensez que j'ai besoin d'apprendre à rédiger un CV ? J'ai répondu à toutes vos convocations. Vous savez depuis combien de temps je suis chez vous ? Trouvez-moi un job. Dites-vous que c'est une question de vie ou de mort.
Monsieur Bensala, vous n'êtes pas comme ça. Tout ce que vous faites, vous allez le regretter, c'est tout.
Je veux parler à Max. À la radio. En direct. Je veux que tout le monde sache.
Qu'est-ce que vous faites ?
Rien du tout, monsieur Martin. Je viens juste pointer, c'est tout.
Quitte à prendre des risques, autant braquer une banque.
Voilà, Vaurien, ça sort mercredi prochain. Ce n'est pas qu'un film de braquage, hein, il y a tout un message à faire passer. Le réalisateur Mehdi Sennoussi viendra nous en parler. Dans le film, le héros veut parler à Max à la radio, et ben le réalisateur parlera.
C'est mise en abîme.
Exactement. Dimanche prochain, donc dans Studio B, le réalisateur Mehdi Sennoussi sera avec nous.
Volubilis à suivre.
Un autre film à ne pas rater qui sort là aussi mercredi prochain, Le quotidien compliqué de Malika et Abdelkader à Meknès au Maroc. Lui, il est vigile, elle est employée de maison. Ils sont fous amoureux, ils viennent de se marier, ils veulent habiter ensemble. Même si bon, financièrement c'est un peu compliqué, jusqu'au jour où Abdelkader va vivre une grosse humiliation qui va chambouler leur destin. Alors c'est un film du réalisateur Fawzi Ben Saidi qui tourne pour la première fois dans sa ville de Meknès. Ses précédents films l'avaient amené notamment à Cannes ou à Berlin. Pour Volubilis, c'est le festival de Venise, la Mostra de Venise, qui l'a sélectionné.
Carnage et les puppets.
Ouais. Alors celui-là, il a l'air drôle.
Qu'est-ce que c'est, Christophe ?
Un film avec des humains et des marionnettes. Ça a l'air vraiment drôle. Alors ça a l'air mignon comme ça, mais
attention. Ce n'est pas un film pour enfants.
Ah oui, car on suit deux films, une vraie dame et une marionnette qui en une vraie dame et une marionnette qui enquêtent après qu'on ait retrouvé deux marionnettes tuées dans une boutique après un braquage.
Non, c'était pas un braquage, c'était un meurtre. Il y a un tueur de puppets dans la nature. On va coincer les salopards qui ont commis ces meurtres.
Alors on est entre le film policier genre Le Flic de Beverly Hills et la comédie genre Ted avec un ours un peu vulgaire obsédé et drogué, bref qui est complètement parti en vrille.
Si ça part en vrille, je pars en vrille.
Alors le problème avec ce genre de film, c'est que ça peut être très drôle comme aussi complètement raté, mais donc le pitch comme ça rend un truc qui a l'air plutôt sympa. Bah,
c'est voilà. Un peu le pitch de Roger Rabbit, hein.
Oui aussi, oui, c'est vrai, voilà. Aussi dans l'idée.
Il y a un peu plagiat, bref.
À voir en salle pour juger donc.
Fortunata,
ça sort aussi mercredi prochain, l'histoire d'une jeune Éthiopienne de 14 ans qui se retrouve dans un monastère des Alpes suisses avec d'autres réfugiés. Elle va y rencontrer un jeune Africain dont elle va tomber amoureuse. Il va finir par disparaître lui alors que la police fait une descente dans le monastère.
À voir aussi cette semaine.
Les Frères Sisters, c'est un western qui est le premier film américain de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. À voir également Leave No Trace sur un père et sa fille qui vivaient en mode sauvage dans la forêt et qui sont ramenés de force à la civilisation. Et puis L'amour est une fête, une comédie avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch sur l'industrie du cinéma pornographique dans les années 80. Et puis enfin Le Poulain, à voir également une comédie sur la politique avec Alexandra Lamy. Et puis autre sortie de la semaine, une grosse sortie de la semaine, La Nonne, un film d'horreur. C'est le film que tu as choisi pour le j'y vais pas, tu vas nous dire si on y va ou si on n'y va pas après avoir écouté la bande-annonce.
J'ai eu plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête.
Qu'avez-vous vu ?
J'ai vu une nonne. L'église a entendu parler de mes visions et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie.
Cette abbaye a une longue histoire, pas toujours heureuse.
Quoi ?
Fini, lecteur. Dieu s'arrête ici.
Ben, ça a l'air de faire peur ton film.
Eh oui.
Pourquoi t'as choisi ça ?
Eh ben parce que
La Nonne alors.
Je suis une grande fan de films d'horreur, figure-toi. Et quand je lis le sous-titre de La Nonne qui fait partie de la saga Conjuring, alors le sous-titre c'est Assister à la naissance du chapitre le plus terrifiant. et ben moi ça me donne très envie.
D'accord.
Donc rappelons aussi ce qu'est Conjuring, c'est le film de James Wan sorti en 2013 qui se déroulait à l'intérieur d'une maison hantée. Il racontait surtout un épisode de la vie du couple Ed et Lorraine Warren qui étaient des chasseurs de fantômes dans les années 70. Et oui, je dis bien qui étaient, car ces deux personnes ont vraiment existé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans Conjuring, les fantômes qui tirent le pied de la petite fille la nuit ou qui se cachent dans son armoire, eh bien, ça s'est vraiment passé.
Oui, c'est pas les gens qui croient aux fantômes.
Si, si.
Ouais.
Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus terrifiant dans un film d'horreur que cette petite mention au début, inspirée d'une histoire vraie? Voilà. En tout cas, moi, Conjuring m'a obligée à dormir avec la lumière allumée pendant 3 mois. Bon, ça m'était pas arrivé depuis le sixième sens que j'ai vu quand j'avais 12 ans. Autant dire que ça remonte. Plus sérieusement, moi qui suis friande de films d'horreur, je trouve que Conjuring a marqué vraiment un renouvellement du genre dans lequel on s'ennuyait quand même pas mal. Je pense à Sinister ou Insidious, par exemple, un peu trop lourd à mon goût. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis bien plus effrayée quand tout est suggéré et que ce n'est pas montré. Par exemple, dans le projet Blair Witch, on ne voit jamais la sorcière, on fait que l'entendre. Et moi, ça m'a traumatisé, ça m'a dégoûté des balades en forêt, hein, disons-le.
Oh, est-ce que tu avais vraiment besoin d'être ça pour, de ça pour ne pas aller en forêt?
Oui, Christophe, oui, oui. Alors, Conjuring, c'est dans la même veine. Hein. Le film suggère beaucoup, avec une explosion finale à la fin qui est vraiment très bien faite. Donc, vous comprendrez que depuis 2013, je suis bien sûr allée voir tous les spin-offs dérivés de Conjuring. Il y en a eu 2 sur Annabelle, une poupée maléfique. Et mercredi sort donc La Nonne, 3e spin-off centré sur ce personnage de religieuse pas très sympa, qui était déjà dans Conjuring 2, le cas Enfield. Et petite cerise sur le gâteau, on retrouve dans le rôle principal Thaïssa Farmiga, sœur de Vera Farmiga, qui interprète Lorraine Warren dans le film original. Voilà, la boucle est bouclée.
Bon.
Et Thaïssa Farmiga, on l'a déjà vu dans la série American Horror Story qui m'a également bien terrorisée. Hein. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez créer vos propres insomnies, allez voir La Nonne, ça sort mercredi dans les salles.
Moi, ça me fait très très peur quand même.
Mais tu es trop sensible,
Christophe. Ben oui, non. Oui. On est pas obligé, les vrais... Oh, non.
Mais si, un peu de sensation forte.
Okay.
C'est ça le cinéma aussi.
La Nonne, on a bien compris, tu y vas, ça sort mercredi prochain. Et bien nous, on va recommencer à parler de Ma Fille.
Studio B, l'interview.
Retour à l'hôtel des Arts et Métiers avec Nedra Yadi et Roche Dizem. La première question que je pose généralement, c'est pas parlez-moi du film, c'est de quoi parle votre film. On va demander peut-être à Nedra de faire le pitch du film.
De quoi parle mon film sans le pitcher? Il parle de, c'est un acte d'amour d'un père envers sa fille. Et donc de transmission, de filiation, d'immigration, même si c'est pas le sujet principal, mais de qui nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment on avance. Voilà. Sans le pitcher.
Nedra Yadi, vous en parlez tout à l'heure, c'est votre première réalisation.
Oui.
Donc je vais pas vous demander comment ça s'est passé, tout ça. Je vais vous demander, moi, pourquoi vous avez choisi de passer derrière la caméra pour cette histoire en particulier? Pourquoi cette histoire vous a donné l'envie de passer d'actrice à réalisatrice?
Parce qu'il y a un moment, cette histoire, elle était nécessaire, parce que à travers les rôles qu'on me propose, ou moi en tant que citoyenne, évidemment, je me questionne par rapport à ma place aujourd'hui en tant que femme, évidemment comédienne, évidemment issue de enfant d'immigrés, et voilà, je reconnais pas forcément. Et je suis pas la seule, peut-être même moi je me reconnais plus facilement que d'autres dans ce qu'on me propose, et j'avais envie de réhabiliter, de parler de gens que je connais, que je ne vois pas mis en lumière comme je crois que ça devrait, parce que c'est aussi une manière de montrer l'autre, de construire une autre image, de donner à voir autre chose, et je dis pas que je suis légitime, mais en tout cas j'avais envie de voilà, de les mettre en lumière à travers le personnage du père, à travers cette famille, à travers cette quête.
Vous n'êtes pas arrivé tout de suite sur le projet, Roche Dizem, vous êtes arrivé en amont. On a même pensé à vous pour la réalisation au début. Qu'est-ce qui vous a fait reculer, j'ai envie de dire.
Ça a été rapidement évoqué et rapidement balayé cette idée. Je ne sais pas pourquoi c'est resté d'ailleurs
dans
une question qui revient souvent, mais ça a été vraiment... quelque chose qui a été évoqué succinctement, mais très rapidement, quand j'ai lu le projet que m'avait proposé Thierry Ardisson et les producteurs Maxime et
Romain.
et Romain. Très vite, m'apercevant que le personnage qu'on me proposait était de tous les plans, pour moi, il était déjà hors de question de le réaliser. C'est... Et je suis, comme beaucoup d'acteurs, mégalomane, mais pas à ce point. Donc...
Oui, c'est donc... pas très confortable pour vous, de parce que j'ai lu dans des interviews que votre première réalisation, Mauvaise foi, vous aviez pas très bien vécu justement ce fait d'être...
Oui, bah, d'abord je découvrais la réalisation, donc c'est quand même quelque chose de très profond la réalisation. Il y a tellement de choses sur lesquelles il faut réfléchir, penser, prendre le temps. Et donc j'ai eu la mauvaise idée de jouer le rôle principal, mais je pense avoir sous-estimé la tâche qui m'attendait. Donc évidemment ce n'était pas à rééditer en ce qui me concerne. Aujourd'hui peut-être plus facilement, avec l'expérience de 5 films, je pense que j'ai une vision peut-être un peu plus élargie de ce qui m'attend. Mais enfin à l'époque, et pour ma fille, j'avais en tout cas, on a évoqué la direction à travers une réalisatrice femme. Et c'est pas du tout moi qui ai pensé à Nedra, parce que je ne la connaissais pas, si ce n'est que comme actrice. Mais quand son nom a été proposé, ça a été comme une évidence. Sans la connaître, je savais qu'il y avait chez cette femme la sensibilité, l'approche et l'investissement nécessaire qu'il fallait pour jouer ce rôle. Et la première rencontre a été déterminante, parce que tout de suite, il y a eu c'est des regards, hein, c'est pas tellement des mots. Moi, je suis très sensible aux premières secondes dans une rencontre. Elles sont souvent décisives. Et avec Nedra, bah, du fait, puisqu'on a fait le film, ça a été tout de suite. Elle dégage des ondes tellement positives qu'on a envie de faire ce chemin avec elle, quoi. C'est évident.
Et ça donne un film réussi qu'on vous invite à découvrir. Il est depuis mercredi dans les salles. Vous restez avec nous. On va écouter la bonne annonce du film. Juste après la pause, il y aura aussi les infos, le box-office. Bref, c'est Studio B. Vous êtes sur Beurre FM. On est avec vous jusqu'à midi.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous, vous écoutez Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On sera là toute cette saison encore, tous les dimanches entre 11h et midi pour vous parler de cinéma. On vous rappelle que tout à l'heure, à partir de midi, vous retrouverez Sabrina pour cette émission spéciale en hommage à Jamel Alam. Vous le savez, Jamel Alam qui nous a quitté hier, et on vous permet de lui rendre hommage. Vous pourrez appeler le standard de Beurre FM tout à l'heure à partir de midi. Émission spéciale également dans l'après-midi entre 14h et 16h avec Mon. Nous on reprend avec le cinéma. Vous le savez, aujourd'hui on parle du film Ma Fille, film qui est sorti depuis mercredi dans les salles, avec Roche Dizem et Nedra Ayadi. Un film de Nedra Ayadi et avec Roche Dizem. Ils sont avec nous, ou plutôt on est allé les voir mercredi dernier dans un hôtel dans le 3e arrondissement de Paris, puisqu'ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui. On écoute la bonne annonce et puis on les retrouve juste après.
Je peux pas venir demain, problème de boulot, dis-le aux parents, je vous appelle, bise.
Ça fait un an qu'elle est pas revenue. C'est ta faute tout ça. Elle s'en fout de nous. Et toi, tu dis rien. On aurait dû aller.
Ça fait combien de temps que t'es pas revenu à Paris?
Presque 20 ans. J'étais dans un foyer d'immigrés. Tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent vite et rentrer chez moi.
C'est là.
Leïla, c'est ça. Ah ben, je suis désolé, mais il est plus chez nous.
T'as dit quelque chose, toi? Leïla, c'est papa. Dans le quartier, elle n'a pas des habitudes?
Il est un peu tard maintenant, vous croyez pas?
Comment ça?
C'est une grande fille. Elle vit sa vie.
Ah non, elle t'en réfléchit, Leïla. Il la demande.
Je suis son père.
Passez plus tard, une des filles pourrait peut-être vous renseigner, mais elle sera pas là avant 22h. Et pourrait pas emmener la petite, hein. Faudrait venir tout seul.
Leïla, c'est papa. Je sais pas ce qui se passe. Je suis à Paris avec ta sœur et je te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Leïla. Je sais que tu vas plus à l'école, je sais pas ce que tu fous et j'arrête pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles.
Faut que tu l'aides. Faut pas l'abandonner.
Bon, je disais que vous êtes réalisateur, vous êtes acteur. Est-ce que vous, Nedra, vous étiez du coup plus en confiance d'avoir un rôle principal, quelqu'un dans le rôle principal qui avait de l'expérience en réalisation?
Oui et non, parce que ça met une petite pression quand même. Mais en même temps, très vite, je me suis dégagée de ça parce qu'en fait, Rojdi me l'a permis. J'ai senti que son expérience n'était pas pour me juger ou être intrusif. C'est au contraire... il m'a accompagné, enfin il était là en tant qu'acteur. J'ai senti moi son expérience en tant que réalisateur parce que je l'ai trouvé patient, indulgent, qui m'a dit de voilà, peut-être des parfois je n'allais pas trouver tout de suite, mais qui savaient que ça pouvait prendre le temps. Et ça, c'est vraiment nécessaire, ce temps-là, parce qu'on a vraiment plein de choses à gérer sur un plateau. Et ça, lui, il le savait, quoi. Il le sait mieux que quiconque. Donc, je me suis sentie vraiment accompagnée. Et puis même dans la manière dont on a construit, en fait... Parce qu'il a été là quand même, il a lu toutes les versions de scénario, on s'est beaucoup parlé de ce qu'on avait envie de raconter, de qui on voulait montrer à travers Hakim. Donc il y a eu toute cet accompagnement, mais je l'ai senti vraiment comme un accompagnement et pas comme un maître d'école.
Si vous permettez d'ajouter quelque chose, oui. Je dis ça en plus pour rassurer les potentiels metteurs en scène qui aimeraient m'engager,
oui.
C'est que réaliser un film, ça demande des mois de préparation, auquel je n'assiste pas, puisque je suis acteur. Donc, forcément, c'est une histoire de confiance, une confiance qu'on se doit de donner au metteur en scène qui vous engage. Mais d'abord, je me repose en tant qu'acteur, il y a déjà assez de travail comme ça, mais je n'ai pas toutes les données. Auquel le chef opérateur, le metteur en scène, la déco, enfin, tous les postes ont travaillé des semaines et des mois en amont. Donc, un acteur qui intervient sur la mise en scène, c'est un imbécile. Hein. Je permettrais pas à un acteur d'intervenir sur ma mise en scène. Donc, chacun a sa place et il faut respecter le travail qui est le fruit d'une longue réflexion. Et d'abord, c'est beaucoup plus confortable pour l'acteur et ça accentue davantage en plus la confiance qu'on peut avoir l'un pour l'autre.
Il y a peut-être un moment où sans le dire, on se dit « Ah, tiens, moi, je l'aurais fait comme ça ».
Mais non, parce que c'est toute une pensée. Le film est pensé dans son intégralité. C'est pas une improvisation qui se fait au jour le jour. Donc, moi, j'aurais fait comme ça. Ouais, tant mieux, si tu veux. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'on va faire, nous, en tout cas. Et il faut s'en tenir au cahier des charges, même si chaque jour est un jour nouveau et que parfois on peut être amené à changer complètement sa mise en scène. Mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose, une base solide derrière sur laquelle il y a eu une réflexion, qu'on peut se permettre de changer. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est pas un acteur qui décide qu'une caméra doit être placée à un autre endroit. Faut le virer. Personne
ne le bon. Non, mais en plus, c'est ça, c'est un truc de. Un moment aussi, le travail, c'est de travailler en confiance. Moi, j'ai senti que Roger, quand il a accepté le rôle et qu'il a été là, il était vraiment là, présent, en tant qu'acteur, il m'a donné confiance. Ça doit être tellement dur pour un réalisateur de ne pas sentir ça chez son acteur, qui est en plus de tous les plans. Donc, voilà, je ne me suis pas sentie vulnérable à ce niveau-là, en tout cas.
Il y a un autre personnage assez essentiel dans la naissance du film. Vous en parliez tout à l'heure, Roche Dizem, c'est Thierry Ardisson qui produit le film. C'est lui qui a eu l'idée d'adapter le roman de Bernard Clavel, Le Voyage du Père, dont est tiré le film Ma fille, hein, on le rappelle. Comment s'est fait la rencontre? Parce que c'est un peu, on n'imagine pas Thierry Ardisson, producteur de cinéma en tout cas, dans l'esprit collectif.
Comment s'est fait la rencontre? C'est un film. Enfin, il y a eu un premier film, hein, il y a longtemps, oui, qui a été fait
avec Fernandel.
Ouais, voilà. On en parlera. pour plein de raisons. C'est quelque chose qui le touchait par rapport lui à son histoire personnelle, son arrivée à Paris, venant de province, le mensonge. Enfin voilà, c'était quelque chose qu'il avait envie aujourd'hui de réadapter aujourd'hui. Donc c'était une envie très forte qu'il avait en tant que producteur. Et puis donc c'est un de ses associés, des coproducteurs, Romain Rousseau de chez Nolita, qui a pensé à moi en se disant c'est elle. Qu'il faut. Et en fait, on s'est rencontrés. Moi, c'est une adaptation très libre du livre, parce que le personnage de la cadette qui est dans mon film n'existe pas. Enfin, il y a plein de trucs. C'est vraiment très, très libre. La trame est essentielle, mais moi, ça me permettait. Après, moi, je me suis emparée du sujet. Évidemment, au début, Thierry Ardisson avait ses raisons personnelles pour faire ce film. Mais très vite, et je pense que c'est ce que vous tous ont senti, c'est vraiment vraiment devenu mon histoire.
Oui, et vous en parliez tout à l'heure aussi, Roche Dizem, je rebondis sur ce que vous dites. C'est aussi une vision de femme. C'est aussi pour ça, peut-être, que vous avez inclus le personnage de la cadette qui va aider le père.
Oui, certainement. Parce que je pense qu'aussi... Je pense qu'aussi les enfants... font leurs parents. C'est une relation réciproque. C'est une relation réciproque. Bien sûr, nos parents nous apportent, mais nous, par les questionnements, par aussi la transmission de l'époque que nous vivons, c'est un échange. En fait, c'est un échange. C'est pas unilatéral. Et c'est ce que j'avais envie de raconter dans ce film. Voilà, c'est pas unilatéral, c'est ça.
Vous parliez aussi des changements que vous aviez dû faire, donc cette cadette qui a été ajoutée. Et aussi, bah oui, on n'est plus dans les années 60, l'époque où se déroulait le livre. Et il y a aussi la présence du portable, qui est beaucoup là, des réseaux sociaux. Le père cherche sa fille qui a disparu depuis un bon moment. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui?
Mais évidemment. Est-ce que, je sais pas, on parle à n'importe quel parent qui a des ados et qui n'ont pas de nouvelles de leur ado, qui sont partis en soirée, qui répondent pas à leur téléphone, on répond à des textos. Au mieux, ils envoient un smiley. Franchement, oui. Aujourd'hui, alors qu'on est on est joignable tout le temps, si on n'a pas envie de répondre, on ne répond pas.
On a encore cette liberté aujourd'hui, même en étant hyper connecté, on peut disparaître.
J'ai l'impression déjà de se cacher derrière un écran.
Heureusement, presque. Vous restez avec nous, Rojidef et Nedra Yadi. On parle du film Ma fille qui est à l'affiche depuis mercredi. On revient juste après les news.
Studio B, l'actu ciné.
Et l'actu ciné dans Studio B, ça commence par le box-office. Pas grand monde au ciné la semaine dernière. Et c'est Photo de famille, une comédie dramatique autour d'une fratrie qui arrive en tête du box-office France avec 226 000 entrées. Film très sympathique. Je suis allé le voir hier soir. Ah, je vous le conseille. Voilà. Sorti il y a 3 semaines en eau trouble. Le film avec les requins est un des succès de l'été et second avec 193 000 entrées et troisième avec 181 000 entrées. Black Lansman, le film J'ai infiltré le Ku Klux Klan, le film de Spike Lee, qui est un très bon film aussi, qui fait donc 180 000 entrées la semaine dernière. Quatrième place pour Les Vieux Fourneaux, que je vous conseille aussi, adapté de la BD du même nom, quatrième avec 130 000 places vendues. Un peu plus loin, on retrouve les autres gros succès de l'été, notamment Mission Impossible Fallout, qui totalise en 6 semaines 2 800 000 entrées, Hôtel Transylvanie 3, quasiment le même score en 7 semaines, et puis Les Indestructibles 2, 5,4 millions d'entrées en 10 semaines. Voilà pour les gros succès de l'été qui sont encore à l'affiche. Aux États-Unis, les films d'horreur fonctionnent bien, et même hors période d'Halloween, La Nonne, dont tu nous parlais, qui sort mercredi en France, fait 53 millions de dollars de recettes sur le premier week-end. On rappelle, si vous nous rejoignez pour la première fois, que les chiffres aux États-Unis, ce sont des dollars rapportés et non pas le nombre d'entrées comme en France. Deuxième place au box-office US, et avec 13,4 millions de dollars rapportés, Peppermint, un thriller qui est sorti mercredi en France, talonné par Crazy Rich Asian, et c'est 13,1 millions de dollars, un film à l'eau de rose qui sortira en novembre chez nous. Les actus, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? 3 actus, et on commence par Omar Sy qui va à Hollywood.
Eh oui, c'est l'info cocorico de la semaine. Merci Christophe. Ouais. Omar Sy va jouer aux côtés d'Harrison Ford dans Call of the Wild. Le film est une adaptation du livre de Jack London. Son rôle n'est pas encore connu. Harrison Ford, quant à lui, tiendra le premier rôle, celui d'un chercheur d'or traversant le Canada pendant la ruée vers l'or. Ce sera la troisième expérience hollywoodienne d'Omar Sy quand même. Vous avez déjà pu le voir dans Jurassic World, Inferno et Transformers The Last Night.
Un autre héros de cinéma, Al Pacino, en chair et en os.
Et oui, ce sera le 22 et 23 octobre prochain sur les planches du Théâtre de Paris. L'acteur de Scarface se produira en solo pour évoquer sa carrière sur grand écran sous forme de confidence. Alors si vous souhaitez rencontrer l'acteur mythique, il faudra débourser quand même la modique somme de 950 euros.
Ah oui, ça fait cher la place de théâtre.
Ça fait quand même une
somme. Sur Billard Duc, il y a un truc ou pas?
Alors même pas, parce qu'en fait, les premières places étaient à 90 euros. Bon, c'est déjà un prix quand même. Hein. Elles se sont écoulées en quelques heures. Bon, pour ce prix, vous aurez le droit à une rencontre privée avec lui après la représentation, c'est déjà ça.
Comment? Qu'est-ce que j'apprends? La vérité! Un quatrième volet pour le décision.
Merci Christophe, arrête les accents, ça ne va pas dire.
Une imitation, non?
Non, on arrête avec ça. Alors oui, c'est confirmé, le tournage débutera le 24 septembre prochain. Vous pouvez retrouver vos personnages préférés, Patrick, Yann, Serge et Dove. Yvan, pardon, pas Yann. Au début des années 80. Yann, je ne sais pas.
On a rajouté, hein, c'est le
Moi, je le rajoute au casting, allez hop. Alors, donc, les personnages seront dans les années 80 parce que la suite sera en fait un préquel, c'est-à-dire qu'il suivra les personnages dans leur jeunesse avant l'intrigue du tout premier volet. La vérité, si je mens, les débuts sortira sur vos écrans courant 2019.
Ah, enfin, un préquel alors que tous les personnages sont plus vieux maintenant.
Ben oui, mais ça ne sera pas les mêmes acteurs, Christophe.
Ah, c'est donc pour ça. D'accord. C'était il y a combien de temps, le dernier La vérité, si je mens?
Le dernier?
Ouais, ça
alors là,
dater,
tu me poses une colle.
Il y a au moins 10-15 ans. Hein.
Ah, tu crois tant que ça?
On va se renseigner.
Ah oui, bah oui.
En faisant des recherches, on vous dira ça tout à l'heure.
Trois infos en bref avant de terminer.
Henri Cavill, Superman depuis 2013, abandonne son rôle. Le prochain pourrait être un Superman noir, puisque le nom de Michael B. Jordan circule depuis quelques jours sur la toile.
Oh.
Et autre héros, Saïd Tagmaoui, pourrait lui être le méchant du prochain James Bond. Et bonne ou mauvaise nouvelle, hein, je vous laisse juger, Robert Pattinson a déclaré être plus que partant pour une suite de Twilight. Voilà, je ne sais pas comment le prendre.
Et de ton point de vue, est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Ah ouais, c'est plutôt une mauvaise. Moi, j'aimerais bien qu'il s'éloigne de ça parce qu'il est très bon ailleurs, mais Twilight, c'est un petit peu compliqué.
Ouais, bon, très
voilà.
On vient de venir dans l'oreillette que La Vérité Seulement 3, ça sortait en 2011.
Ah !
Donc, c'était pas il y a 10-15 ans, c'était il y a,
voilà,
il y a 7
tu vois,
ans.
Je me disais, c'était pas si vieux que ça quand même.
Allez, reste avec nous, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à midi. On continue de parler avec Nedra Yadi et Roj Dizem du film Ma Fille. Roj Dizem en tête d'affiche, Nedra Yadi derrière la caméra pour ce film qui est à l'affiche depuis mercredi, qu'on vous conseille d'aller voir. On est allé rencontrer ces deux personnages mercredi dans un hôtel du 3e arrondissement de Paris. C'était une interview de rentrée, on va dire. Et on les retrouve juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous, c'est Studio B, c'est la rentrée pour Studio B, votre magazine ciné qui reprend. Et on sera là tous les dimanches entre 11h et midi pour vous parler de cinéma. Aujourd'hui, le film que l'on a choisi, c'est Ma Fille, film de Nedra Yadi avec Roj Dizem à l'intérieur en star. C'est lui qui porte le film vraiment, puisqu'il y a du début à la fin, avec de nombreux acteurs à découvrir aussi, notamment Natacha Akrieff, une des actrices, on va dire, débutantes, qui c'est son premier grand rôle. Qui
joue la fille de Roj Dizem et qui est dans pas mal de plans aussi et qui est très très bien.
Alors, pas la fille qui est perdue du coup, mais pour le coup,
non, la fille qui est là.
On va en parler justement avec Roj Dizem et Nedra Yadi, puisqu'on les retrouve avec cette interview enregistrée un mercredi matin dans un hôtel du 3e arrondissement de Paris.
Studio B, la revue de presse.
Alors, je voudrais partager le passage d'une critique trouvée sur mondociné.net, que moi j'ai trouvé très juste. Vous allez me dire si vous la trouvez juste. Alors, il se dit que dans Ma Fille, il est question des liens père-fille, des non-dits, de la pudeur de ses pères taiseux et de la peur de ses enfants craignant de les décevoir. Il est aussi question de conflits générationnels, de déracinement culturel, du trauma de ces immigrés de première génération qui fuient la guerre civile algérienne et des valeurs de nos aïeux qui se confrontent à la liberté surexacerbée de la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça ?
Oui, il y a beaucoup de vrai, mais c'est d'autant plus intéressant qu'on se trouve aujourd'hui, enfin surtout moi, puisque j'ai l'âge du personnage, confronté ce à quoi on a fait subir à nos parents. Parce qu'on a, reçu beaucoup d'amour de nos parents. Mais que faire de cet amour ? Finalement, on devient prisonnier de cet amour. Il est trop imposant. Et la seule façon de s'en libérer, c'est d'une façon brutale. Parce qu'on se sent redevable. Il y a cette espèce de charge de la dette. Et c'est ce que raconte le film. C'est-à-dire que l'amour qui a été transmis à la jeune fille qu'on cherche, elle n'a pas trouvé d'autre solution, d'autre option que de s'en débarrasser de façon aussi brutale que ce soit, parce que en plus il y a ce côté moyen-oriental où les mots sont remplacés par des regards, par des attitudes. Donc ils n'ont pas l'habitude d'échanger, en tout cas à travers des dialogues. On se confie pas aussi aisément que dans certaines classes sociales. Donc c'est un ensemble de tout ça qui fait qu'au moment où on a besoin de se dire les choses, parfois il est trop tard. C'est après ça qui court. Et l'idée géniale qu'a eue Nedra, c'est effectivement cette cadette qui l'accompagne dans la quête de la grande sœur. Et en fait, il est en train de chercher quelque chose qu'il a à côté de lui et qu'il va perdre s'il n'y prête pas attention. Donc il y a une espèce de schizophrénie de sa part, parce qu'il cherche quelque chose et en même temps il est en train de réaliser que la petite, il va la perdre aussi s'il s'y prend pas autrement. Donc il y a beaucoup de subtilité à travers tout ça.
Oui, il n'y a pas énormément de dialogue, mais il y a beaucoup de choses dites. Et comme vous dites, dans l'absence en fait de Leïla, de la fille que Hakim cherche, il va découvrir sa cadette en fait.
Absolument, absolument. Et c'est
C'est cette attitude-là qui est mis en abîme par Nedra dans le film. C'est ça raconte tellement de choses. C'est de la pudeur, évidemment. C'est issu d'une culture aussi où se toucher, se prendre dans les bras, se dire des mots tendres, se faire part de ses émotions, tout ça, c'est pas quelque chose de totalement assimilé. Et pourtant, c'est des êtres humains, donc ils ressentent la même chose. Et évidemment, de changer de culture et élever ses enfants au sein de cette culture qui n'est pas la leur, crée forcément une dichotomie dans la façon d'affronter la vie. Et voilà, sans tout dévoiler, c'est un peu ce que raconte le film.
Oui, et c'est aussi ce film, Ma fille, c'est aussi l'histoire d'une émancipation, celle de Leïla qui, comme vous le disiez, veut ne plus être la fille de quelqu'un, mais devenir elle-même. Bon, elle le fait un peu violemment. D'ailleurs, il y a une très belle scène avec le personnage de Dounia, une prostituée, qui, quand le personnage d'Hakim lui dit « c'est ma fille », elle lui répond « et alors ?» C'est tout à fait ça, parce que dans Ma fille, il y a quelque chose de très possessif.
Possessif, absolument.
Et Leïla est obligée, en fait, de s'émanciper de cette façon. Elle peut le faire que de cette façon.
Mais après, je vais te passer la parole, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les seconds rôles sont des personnages qu'on a tous croisés un jour, mais encore une fois, je trouve que la subtilité de la façon dont on raconte Nedra ce film, c'est qu'elle n'est jamais dans le jugement. Bien au contraire, on creuse, on gratte et on s'aperçoit que derrière ces gens-là, il y a une histoire, il y a un passé, il y a des douleurs, il y a des souffrances et leur situation est la conséquence de tout ça.
Oui, c'est exactement ça. Même quand elle lui dit « et alors ?» En fait, c'est pas le tout d'être père. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce qu'il faut choisir d'agir ? Enfin, c'est à toi de construire ta paternité. Et aussi, oui, c'est ça, quand tu dis que c'est juste... Dounia lui dit, en gros, elle lui dit « on ne naît pas prostituée, on le devient. » quoi. C'est aussi... Puis c'est des gens, c'est son miroir. Mais dès qu'on voit quelque chose en fait qui peut nous toucher, qui nous ressemble chez l'autre, on est en empathie et en fait je trouve que ça permet l'échange, ça permet d'avancer quoi.
Vous avez beaucoup tourné la nuit à Pigalle, à Château Rouge. Vous avez dit vouloir montrer l'immigration à Paris. C'était une volonté aussi de tourner à Paris, de vouloir montrer.
Oui,
cet aspect-là.
De tourner à Paris parce que déjà Paris c'est ma ville, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Je trouve que c'est une ville qui est dense, qui est mixte, qui est riche. Elle peut paraître hostile, mais c'est aussi avant tout, c'est là qu'a lieu la rencontre entre un père et une fille aussi. Enfin voilà, c'est pas qu'une ville hostile. Elle permet ça aussi.
Parce que Paris est presque un autre personnage du film. Vous en faites au début un portrait cruel, le temple de la luxure. C'était une volonté ça d'être aussi dur avec Paris.
Moi je me trouve pas dur avec Paris. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec ses défauts. Et moi, j'aime ma ville avec ce qu'elle est.
Et bim.
Ouais, voilà, c'est fait. on parlait de Nejma, la cadette, qui est quand même très importante dans le film, qui est centrale, qui est interprétée par Natacha Krief.
Krief,
excusez-moi. Comment s'est fait la rencontre aussi de cette jeune actrice qui
c'est un long casting, très long casting. Vraiment, je l'ai trouvé peu de temps avant le tournage. Parce que il fallait que je trouve la comédienne qui incarnerait ce rôle. Ce rôle était important pour moi parce qu'il allait aussi mettre en lumière mon héros. Et puis aussi, c'est un duo. Enfin, il y avait une énergie. Il fallait qu'ils aillent ensemble, quoi. Il fallait que dans ce que j'avais envie de raconter, c'était important eux ce qui je savais que c'est que leur relation de leur relation dépendrait vraiment le film et en fait quand j'ai vu ces essais je sais pas tout de suite il y a eu un truc c'était instinctif puis quand je l'ai rencontrée je trouve qu'elle a été chouette parce qu'elle a été humble elle avait envie d'apprendre elle était consciencieuse c'est une travailleuse voilà C'est un peu reconnu en elle, peut-être, je ne sais pas.
Vous disiez que ça allait être très important, la relation entre Roche Dizem et Natacha Krief. Roche Dizem, justement, comment vous avez rencontré cette actrice? Est-ce que vous avez passé un peu de temps avec elle? Est-ce que...
Non. 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 C'est pas le temps. Non, je plaisante. Non, non, mais il y a quelque chose toujours... Vous savez, on pose toujours la question aux jeunes acteurs. Alors, qu'est-ce que vous avez appris avec tel ou tel acteur? Beaucoup plus aguerri. Et en fait, en réalité, on apprend beaucoup plus, nous, acteurs expérimentés, avec des jeunes acteurs, parce qu'ils arrivent avec beaucoup d'authenticité, avec une soif de prouver qu'on a eu raison de les choisir. Et puis, surtout, ils travaillent sans astuces. Tous les acteurs un peu confirmés ont tous des astuces pour... Tu veux ça, j'ai ça en magasin.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, ça nous permet, nous, de moins tricher, parce que je suis obligé de m'accorder avec elle. Et donc, sa vérité, la sienne, avec toutes les maladresses que ça peut comporter, mais des maladresses intéressantes, parce qu'il n'y a pas de... je dirais que dans sa façon d'aborder une scène, il n'y a pas de réelle stratégie. Et donc, du coup, c'est du brut de décoffrage et ça sonne vrai. Et forcément, quand vous êtes en face d'une jeune actrice comme ça, ça vous challenge quelque part, parce que vous savez que vous ne serez pas dans le forme de consensus qui veut parfois qu'il y ait un peu de cabotinage, parfois de l'ordre de... Oui, c'est ça, de l'expérience qui fait que Vous utilisez des béquilles.
Oui.
Et donc, je préfère me laisser embarquer par une jeune actrice comme ça, qui va m'entraîner vers le chemin de la vérité, en tout cas dans l'interprétation. Et c'est plus intéressant pour moi, en tout cas, à développer.
Ça se voit, enfin, c'est peut-être dû à son personnage aussi, mais ça se voit qu'elle a envie de donner, de montrer. Peut-être que ça permet de se remettre en question aussi, vraiment, d'avoir des nouveaux acteurs autour de soi. Comme dans n'importe quel métier, finalement, quand on a des petits jeunes qui arrivent, ça nous pousse à donner plus encore, peut-être.
Absolument. Ouais. C'est comme dans tous les domaines. À partir du moment où vous avez une jeune fille qui arrive avec, on sent qu'elle est pleine de désir pour ce métier, et donc, elle a une flamme à l'intérieur d'elle qui est sans doute plus animée que la vôtre, et donc il faut monter un peu le thermostat pour jouer dans la même cour qu'elle. Et effectivement, ça, vous vous remettez en question et vous êtes en proie aux doutes aussi, et ces doutes là deviennent aussi l'essence de votre travail.
On l'a dit, le film Ma fille aborde plein de thèmes différents. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le spectateur retienne quand il sort de la salle? Un sentiment, une idée.
Déjà, je me dis que si les gens sont touchés, enfin que ça fait un écho chez eux, c'est vraiment, ça paraît naïf, mais c'est énorme pour quelqu'un qui, parce que c'est long de construire un film, et à la fin on se dit mais en fait qu'est-ce que les gens vont, donc déjà qu'ils soient touchés, puis je sais pas, qu'ils prennent leur portable, qu'ils appellent leur fille.
Oui, bah oui.
De se dire aussi que, en fait, chacun peut, là où il est, à sa manière, chacun peut faire quelque chose. En fait, rien. Moi, je viens d'une culture où on m'a beaucoup parlé de fatalité et du mektoub et du destin. Et en fait, je crois que c'est un truc que j'ai toujours combattu, parce que je pense que non, en fait, on peut décider les choses et faire les choses. Voilà. On n'a pas à les subir.
Et vous, Roche Dizem?
Non, moi, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est le sentiment d'universalité. Voilà, aimer quelqu'un qu'on est en train de perdre, tout le monde a connu ça. Et le film, c'est le thème du film principal. C'est essayer de retrouver et de dire ces mots qu'on aurait aimé dire avant, et simplement d'essayer de constater, en tout cas, qu'il n'est jamais trop tard pour dire aux gens qu'on les aime. Et voilà, je crois que ça parlera à tout le monde.
Voilà pour cette interview de Nedra Ayadi et Roche Dizem. Il reste quelques minutes pour diffuser un extrait de la bande originale du film, une reprise de Where Did You Sleep Last Night par Kimber Rose. Ça s'appelle, donc c'est la bande originale du film Ma fille sur Beurre FM.
My girl, don't lie to me. Tonight. tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. How would you? My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine. I'll shiver the whole night.
Le groupe Kimber Rose pour la bande originale du film Ma fille, le film dont on vous a parlé depuis depuis le début de cette émission, film avec Roj Dizem, film de Nedra Ayadi. Il est dans les salles, on vous conseille d'aller le voir.
Tout à fait. Il est sorti depuis mercredi, donc allez-y, il est à l'affiche.
C'est un beau film. Hein.
C'est un beau film sur la paternité, sur le besoin aussi d'indépendance des enfants. Et il y a plein de réflexions comme ça. Alors, c'est pas très bavard hein, comme film. Il n'y a pas énormément de paroles, mais on comprend plein, plein de choses dans le non-dit, justement. Et c'est très joliment fait.
Mais des fois, ça ne sert pas spécialement d'être bavard.
Tout à fait.
Le film se suffit à lui-même.
Bah, surtout au cinéma, finalement, il faut montrer plutôt que dire.
Exactement. Bon, voilà, donc c'est Ma fille, c'est dans les salles. Et on vous conseille d'aller le voir. Alors, avant de se donner rendez-vous dimanche prochain, je voulais avoir une grosse pensée pour Rachida et Jamel Alam, deux artistes qui nous ont quittés cette semaine. On connaissait le chanteur Rachida, mais il avait aussi composé des bandes originales, notamment de Beurre sur la ville. Il avait aussi joué dans quelques téléfilms et films pour le cinéma. On lui dédie cette émission. On dédie aussi cette émission à Jamel Alam, qui avait fait un peu de cinéma aussi. Il avait été comédien dans un film d'Alain Corneau. Ça s'appelait Force Again. Il avait également écrit des musiques de films. Voilà, c'est des artistes qu'on connaît pour les titres qu'ils font, qu'on vous diffuse toute la journée sur Beurre FM et qu'on connaît peut-être moins pour leur rapport au cinéma. On continue donc cette journée hommage à Jamel Alam, notamment sur Beurre FM. On va retrouver Sabrina.
Bonjour Christophe.
Bonjour, comment ça va?
Bonjour. Ben ça va plutôt mal,
oui. Hein,
plutôt mal avec la nouvelle qu'on a appris. Jamel Alam fait partie des familles. Hein, et c'est vrai que là, même s'il était malade et qu'on s'attendait quelque part à sa disparition, ça fait toujours mal. Et la culture berbère, algérienne, dans son ensemble, a perdu un grand artiste. Et au-delà de l'Algérie, c'est l'humanité qui a perdu un homme extraordinaire, parce que c'était quelqu'un de particulièrement bon, de généreux, simple, proche des gens, un humaniste... Qui a beaucoup donné et d'ailleurs lors de son dernier discours avant sa mort, il y avait un hommage qui lui avait été rendu au Cabaret Sauvage. Beurre FM était partenaire de l'événement et il avait dit je vous ai donné mon énergie pendant toute cette vie, rendez-la moi parce que j'en ai besoin. Et il s'est battu jusqu'au bout. Malheureusement, la maladie l'a emporté.
Voilà, les grands artistes disparaissent aussi. On va essayer de se souvenir de lui d'une manière positive et on va en profiter profiter pour diffuser encore plus sa musique. C'est donc l'émission Hommage qui continue entre midi et 13h. Et puis à 14h, ce sera Monde qui prendra le relais. Émission Hommage toujours pour Jamel Alam. Vous pouvez appeler pour lui rendre hommage au 01 53 48 3000 pour toutes vos réactions. 01 53 48 3000. Studio B, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine.
Ah bah oui, j'espère bien.
Oui, j'espère aussi. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le www.beurrefm.net. Vous pouvez podcaster l'émission. Vous pouvez la retrouver aussi sur l'application Beurrefm. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, il y a une toute nouvelle application Beurrefm disponible sur iOS et sur Android. Elle est top, cette nouvelle application. Et vous pouvez donc retrouver tous les podcasts de l'émission et notamment celle de Studio B. Rendez-vous donc la semaine prochaine avec Médicine aussi pour le film Vaurien. D'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurrefm.